10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Bonjour à tous, bienvenue dans le Grand Rendez-vous, votre émission qui lance la semaine politique, ai-je l'habitude de dire. Sauf que nous sommes évidemment dans un dimanche particulier, jour de vote en Europe et en France, pour élire donc les 751 nouveaux eurodéputés, 79 eurodéputés français. Impossible pour nous donc de prendre le risque d'influer sur le scrutin. Nous sommes dans ce qu'on appelle la période de réserve. Pour autant, est-ce impossible de parler politique, et si nous en revenions à l'étymologie? La politique, ce n'est rien d'autre que la vie de la cité, l'organisation de la cité. Nous vivons tous quelque part, nous sommes dans des villes, dans des campagnes, dans des paysages façonnés par des bâtiments privés ou publics, des châteaux, des temples, des églises. Nous sommes reliés à notre histoire et les uns aux autres par cette organisation de la cité. Alors, quoi de mieux pour nous en parler qu'un architecte? Un architecte pour nous dire le sens qu'il donne à son art et à ses œuvres, pour nous dire le rôle qu'il tient dans cette cité. Et qui de mieux pour nous en parler que l'architecte français le plus connu certainement au monde, lauréat du plus prestigieux prix d'architecture, le prix Pritzker. Il lui a été décerné en 2008. Bonjour Jean Nouvel.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation du Grand Rendez-vous. Le prix 2019 vient tout juste d'être remis à un Japonais, le Japonais Arata Isozaki. Et vous avez participé notamment à une cérémonie vendredi où on lui a remis, le président de la République lui a remis ce prix.
Oui, c'est un ami, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, une quarantaine d'années. Et c'est un architecte qui a marqué chacune des décennies, je dirais pratiquement. Il a toujours été un illustrateur de l'évolution de l'architecture, depuis le mouvement moderne jusqu'au métabolisme, jusqu'au postmodernisme après, jusqu'à une attitude beaucoup plus ciblée aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est formidable.
Alors on va rappeler aux auditeurs et aux téléspectateurs qui connaissent certainement votre nom, mais qui peut-être ne mettent pas toutes vos réalisations sur votre nom. Impossible évidemment de toutes les citer, on va dire celles peut-être les plus connues. La Fondation Cartier à Paris, dites-nous vous, celles que vous retenez d'ailleurs.
Bon, je ne peux pas dire ce que je retiens, mais enfin, on peut parler des réalisations parisiennes. Déjà, il y a l'Institut du Monde Arabe, donc il y a la Fondation Cartier, il y a le Musée du Quai Branly, il y a la Philharmonie de Paris. Ce sont les quatre principaux bâtiments parisiens que j'ai construits, mais je construis aussi beaucoup à l'étranger.
Et votre dernière réalisation ?
Ma dernière réalisation, c'est le Musée national du Qatar, qu'on appelle la Rose des Sables. Et 2 ans avant, j'avais livré le Louvre à Abu Dhabi, évidemment.
Alors, on va évidemment parler de ces réalisations pour vous interroger. Le directeur de la rédaction des Échos, bonjour Nicolas Barré.
Bonjour Hélène, bonjour à tous.
Et Romain Desarbres de CNews, Romain Desarbres qui vous pose la première question, Jean Nouvel.
Bonjour Jean Nouvel, on a décidé de démarrer cette émission avec Notre-Dame de Paris qui a animé les débats, l'actualité évidemment, qui a fait la une de l'actualité évidemment. Notre-Dame de Paris qui a été en partie détruite par un incendie le 15 avril dernier, charpente et flèche détruites. La reconstruction de la flèche a très vite provoqué une polémique. On en a l'habitude en France. Est-ce qu'il faut la restaurer à l'identique? Est-ce qu'il faut la restaurer à l'identique, mais avec des matériaux modernes? Ou alors oser un geste architectural audacieux? Est-ce que vous y avez vu une querelle des anciens et des modernes? Et, le cas échéant, dans quel camp vous situez-vous?
Je crois que la modernité, ce n'est pas automatiquement faire le contraire de ce qu'il y avait avant. Et ce n'est pas automatiquement marquer quelque chose qui est avant tout un témoignage. Je crois que ce que nous a rappelé cet événement, c'est l'extraordinaire pouvoir qui est celui de créer une émotion. C'est la puissance de l'architecture comme principe d'émotion. Et ça, je crois qu'on l'a oublié, parce qu'il ne faut pas confondre l'architecture et la construction. Ce qui est important pour les grands témoignages, c'est de conserver leur pouvoir d'émotion. Alors évidemment, Notre-Dame de Paris est aussi un exemple de sédimentation. Il y a eu différentes interventions dans le temps. Mais il y a un jugement historique qui se fait aussi en fonction de la qualité de cette sédimentation et des époques qui constituent les bâtiments. La plupart des palais et des grands bâtiments sont constitués de plusieurs époques. Ils sont soudés comme ça. Or, l'époque gothique est évidemment un prototype d'architecture gothique absolument extraordinaire. Le grand spécialiste de l'architecture gothique, c'est Viollet-le-Duc. Il nous a donné des choses quand même assez extraordinaires, dont cette flèche. La question se pose ensuite de savoir s'il faut laisser un témoignage du XXIe siècle, surtout à partir de l'événement. Ce qui est ouvert maintenant à travers les questions qui ont été évoquées, en particulier celle du concours, c'est que ce n'est pas automatiquement la flèche ou que la flèche, ça peut être aussi les abords, ça peut être aussi le parvis, ça peut être aussi peut-être des éléments qui sont intérieurs, comme le sol ou comme des vitraux qui ne sont pas occupés, je dirais entre guillemets. Donc je crois qu'il faut laisser ouvertes totalement les propositions possibles.
Mais c'est-à-dire qu'il faudrait repenser tout Notre-Dame éventuellement ? C'est pas seulement une reconstruction, dites-vous ?
Ah non, je dis pas ça, je dis vraiment pas ça. Non, je dis au contraire que on n'est pas automatiquement obligé de refaire une flèche ou de refaire un élément entier. On peut travailler aussi comme témoignage du XXIe siècle sur des éléments qui sont autres, qui sont autour de Notre-Dame ou qui sont à l'intérieur de Notre-Dame, par exemple. Donc la question est entièrement ouverte aujourd'hui. C'est une question aussi d'éthique architecturale et culturelle. Si on considère que le témoignage est essentiel, à mon avis, on ne peut pas le bouger trop. Et puis ensuite, il faut bien prendre conscience que Notre-Dame n'est pas démolie. À 85%, Notre-Dame est là. Donc on a eu très peur, évidemment, parce que si le feu avait fait en sorte que la maçonnerie ne tienne pas et si tout s'était effondré, ça aurait encore été autre chose. Mais là, bon, on est quand même dans un monument qui est toujours là, et les vitraux sont là, et tout l'intérieur est là, et toute la maçonnerie est là, tous les arcs-boutants sont là. Bon, c'est un bâtiment qui est là, quand même.
Vous dites que la modernité, c'est pas forcément tout changer, hein. C'est ça que je retiens.
Ah non, c'est ça. Oui, ce fut ça, mais la modernité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui.
Un de vos confrères, Jean-Michel Villemotte, verrait bien cette flèche en verre, comme en écho à la pyramide du Louvre. Il y a eu aussi d'autres idées qui ont circulé sur les réseaux sociaux, parfois complètement farfelues. Est-ce que ce lieu, vous inspire ?
Il m'inspire, je laisse à Jean-Michel Villemotte ses convictions, ce ne sont pas les miennes. Mais je pense qu'ici, il faut être plus gothique que jamais. Voilà.
Et si vous deviez redessiner, vous, cette flèche, c'est...
Moi, je ne redessinerai pas la flèche, ça c'est sûr. Mais je ne sais pas ce qui se passera. Mais je pense que ce n'est pas la solution, c'est pas le problème.
Emmanuel Macron, qui a reçu, je le disais, des architectes vendredi, à l'occasion justement de la remise du prix Pritzker, est revenu sur un peu le délai du chantier. Il a continué à dire qu'il fallait faire vite. Il a dit, je crois que pour faire, il faut une volonté, et si la volonté devient une expertise, on ne fait plus rien. Vous entendez cette conviction ?
Oui, j'entends ce qu'il dit. Je crois que 5 ans, ça dépend ce qu'on fait. La Sainte-Chapelle a été construite en 7 ans. Mais en même temps, pour la restaurer, il a fallu 15 ans, je crois. Donc... Les temps ne sont pas les mêmes. Je crois que de toute façon, en 5 ans, on peut sûrement rendre ce bâtiment totalement, cette architecture totalement revisitable et totalement ouverte au public. Maintenant qu'il reste des choses à faire, c'est probable.
Alors, je ne sais pas si vous l'avez entendu, vous étiez peut-être en voyage à ce moment-là, mais Stéphane Bern a parlé des architectes comme des star-architectes. Il s'est inquiété des star-architectes qui voudraient laisser leur nom sur ce bâtiment. En clair, se faire de la pub avec Notre-Dame. Ouais. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce terme de star-architecte ? Est-ce qu'il y a des architectes
qui cherchent à faire ça ? Ça m'énerve beaucoup. Ça m'énerve beaucoup. Moi, je dis toujours, j'ai une réponse que je connais quand même. Et depuis longtemps, en architecture, les stars, ce sont les architectures elles-mêmes. Ce sont les bâtiments.
Alors je pense qu'il faisait peut-être allusion, on a vu Viollet-le-Duc qui avait construit une statue à son effigie. Est-ce que c'était déjà un star-architecte ?
Oui, mais c'est amusant ça. Mais c'est pas très très visible parce que c'est à la base de la flèche, c'est la transition de la flèche à l'angle des toitures sur le transept. Il doit y avoir 16 statues, je crois que c'est comme ça.
Une douzaine, quatre
de chaque côté. Donc, ouais. Quatre, non, c'est que c'est 4 fois. Donc, peut-être que 3, finalement, vous avez raison, je ne sais pas. Bon, enfin, toujours est-il qu'il a mis sa tête sur l'une d'elles. C'est un geste de signature tout à fait discret, finalement.
Nicolas Barré.
Au-delà de Notre-Dame, le patrimoine français, dans certains cas, menace ruine, notamment le patrimoine religieux. Il y a 5000 églises ou petites églises ou chapelles qui sont dans un état assez de délabrement. L'incendie de Notre-Dame, évidemment, a provoqué un grand élan populaire. On a réuni plusieurs centaines de millions d'euros, près d'un milliard peut-être. Mais au-delà de ça, quel diagnostic est-ce que vous portez sur l'état du patrimoine religieux en France et est-ce que cet argent doit aussi servir à reconstruire aussi d'autres églises ou d'autres chapelles?
Je ne sais pas si cet argent doit servir à autre chose, c'est aux donateurs de le dire quand même, je pense. Mmh. Mais non, je pense surtout que le problème du patrimoine actuellement, c'est qu'effectivement, il n'y a pas les moyens de l'entretenir. Donc il faut absolument qu'il y ait une conscience de l'importance de ce patrimoine, et que cette conscience ne soit pas que nationale, qu'elle soit locale, et il faut être conscient aussi du fait que le patrimoine, il se construit tous les jours. Et ce qu'on ne sait plus faire, c'est ça, c'est créer du patrimoine aujourd'hui. On ne protège plus non plus les créations récentes. Dans le XXe siècle, il n'y a pratiquement rien de protégé. Dans la fin du XXe siècle, sur les dernières décennies. Donc il faut faire très attention à l'importance de continuer le patrimoine. Le patrimoine, c'est une chose qui... Ce qui est extraordinaire dans l'architecture, c'est qu'elle laisse le témoignage de toutes les générations. C'est le fameux livre de Pierre... Bon, mais si on veut savoir ce qui faisait plaisir à tous ces gens-là, il suffit de regarder la ville. Mais il faudrait savoir ce que les gens vont penser de ce qui nous plaît aujourd'hui, et regarder dans les constructions aujourd'hui ce qui peut encore prétendre être de l'architecture. Là, j'ai eu très très peur quand je vois qu'on voudrait alléger les contraintes pour construire sur le littoral et dans des lieux qui sont délicats. Je crois que moins que jamais, il faut faire ça. On est dans un grand péril aujourd'hui, d'une perte de notre patrimoine naturel et construit. Il y a un véritable saccage qui est lié à l'urbanisme du XXe siècle et du XXIe siècle. Il faut absolument qu'il y ait une réaction. Il faut absolument que l'État protège son patrimoine naturel et construit.
Jean Nouvel, architecte français, est l'invité exceptionnel de ce grand rendez-vous. On se retrouve dans un instant pour parler notamment du rôle du coup. Vous y avez fait allusion il y a un instant, du rôle politique quasiment qu'un architecte doit tenir dans la cité. On se retrouve tout de suite.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Invité du grand rendez-vous en ce jour de scrutin, l'architecte français, le grand architecte français Jean Nouvel. Une question de Nicolas Barré.
Oui, à la veille de la présidentielle, vous aviez publié une tribune dans Le Monde dénonçant l'ubu urbanisme planétaire qui a provoqué des saccages, vous l'évoquiez à l'instant, des saccages visuels notamment, mais pas seulement, avec des conséquences importantes pour la population. Au fond, qui est responsable de cet ubu urbanisme? Est-ce que ce sont les architectes? Est-ce que ce sont les élus? Est-ce que ce sont les deux?
Écoutez, pour tous les Français, les architectes sont responsables de tout. À chaque fois qu'il y a une horreur, on dit que c'est la faute aux architectes. Il faut savoir quand même que dans le domaine urbain, toutes les décisions architecturales, les plus essentielles, en particulier où on construit, qu'est-ce qu'on construit en termes de programme et de dimension, sont prises par des technocrates et par des administrations et par des élus, mais ne sont pas prises par les architectes. Et finalement, il y a un grand problème aujourd'hui sur la limite entre l'urbanisme et l'architecture. Moi, j'aime pas le terme urbanisme. Je trouve que c'est un urbanisme qui a mal vieilli dans le XXe siècle. Et je trouve que l'urbanisme, c'est en fait de l'architecture à grande échelle, pour l'essentiel. La vraie fracture est au niveau de l'aménagement du territoire et des grands programmes et des grandes infrastructures qui ne se discutent pas. Mais par contre, la liaison entre deux bâtiments, c'est de l'architecture. Entre trois bâtiments, c'est de l'architecture.
Donc ce qu'il faudrait, c'est que les architectes aient un rôle plus important dans
l'urbanisme. En France, on est très connu pour avoir eu des architectes qui savent tracer. Ce qu'on a perdu, c'est le tracé. Et l'enfant a tracé Washington, par exemple. C'est un architecte français, quand même. Bon, donc ce qu'il faut, c'est absolument considérer que le rôle de l'architecte, c'est justement d'architecturer. Et d'architecturer en relation avec un site, avec un contexte. Aujourd'hui, ce sont les mêmes règles qui sont appliquées partout. Des règles de zoning, des règles de hauteur. Les premiers terrains libres sont construits. Il n'y a pas de vision. Il faut une vision avant de commencer à construire. Les vrais règlements doivent être suivre la vision, la stratégie, si vous voulez, qui est une stratégie sensible. Je dis toujours, il faudrait créer des règles sensibles. C'est un oxymore, peut-être, mais il faudrait que ça finisse par ne plus en être un. Et c'est à partir de ces principes-là, qui sont en liaison avec un climat, qui sont en liaison avec un site, qui sont liés en liaison avec des habitudes culturelles qui sont celles du lieu, c'est comme ça que les villes devraient se faire.
Mais c'est donc une vision qui s'est perdue au fil du temps, qu'on a eue dans le passé
Mais dans le passé, il n'y avait pas ce problème-là, parce qu'il y a eu le déménagement du territoire au XXe siècle, cet énorme envahissement. Et on est passé d'urgence en urgence, et finalement on a considéré que la façon de développer la ville n'était pas un problème sensible, justement, n'était pas un problème gérable. Or c'est complètement faux. Et dans le monde, donc, ce que j'expliquais, et ce que j'explique toujours, c'est que la première décision à prendre pour stopper ce saccage, c'est de stopper le développement urbain.
On arrête l'expansion urbaine de la ville.
C'est-à-dire que ce que je propose, c'est qu'autour de chaque ville, on trace une ligne rouge et que sur cette ligne rouge, on crée un parc linéaire et qu'on ramène l'agriculture locale, le maraîchage et qu'on construise toujours à l'intérieur de cette ligne.
Donc on concentre davantage.
Sur la périphérie, ça. Donc c'est pas une concentration. Ce qui est dramatique, et ce qui est une maladie, c'est celle de construire toujours plus loin comme ça, toujours plus loin. C'est comme un cancer. Tout est dissocié aujourd'hui. On ne sait plus tracer, on ne sait plus dessiner. Tout se fait par adjonction, comme ça, mais adjonction molle. Et tous les immeubles qui arrivent, on a l'impression qu'ils arrivent de façon incongrue.
Donc c'est l'étalement urbain aujourd'hui
qui est un mal. L'étalement urbain, ne pas confondre avec le fait que ça empêche de développer la ville. Je me suis mal exprimé tout à l'heure. On peut continuer à une politique de croissance urbaine, mais sur un territoire qui est contraint. Et c'est là où il faudrait faire une loi comme la loi littoral, qui parle du littoral des villes, en fait. Et ce littoral des villes, les entrées des villes, c'est une catastrophe aujourd'hui. Toute l'image des villes est justement pourrie par les périphéries. Bon, et redonner aussi à cette périphérie qui accueille souvent les gens les plus pauvres une nouvelle pertinence, c'est aussi retrouver un équilibre social. Et si on voit ce qui se passe avec les Gilets jaunes, c'est quand même totalement lié à l'étalement urbain. C'est-à-dire le fait qu'on se déplace de plus en plus loin, qu'on ait des trajets qui sont ingérables en termes de temps, il faut stopper ça. Et en termes écologiques, c'est une urgence totale. Et ça permettrait aussi, au plan de la nourriture de la ville, d'avoir des villes nourricières, je dirais, et que chacune d'elles, puisque la proportion du périmètre est en liaison avec le nombre d'habitants, d'avoir en fait un contrôle sur la qualité de la nourriture et une attitude écologique claire aussi sur le carbone et sur les transports.
Je reviens un instant, Jean Nouvel, sur le rôle de l'architecte.
Le rôle de l'architecte.
Vous avez l'air de dire qu'aujourd'hui, il est délaissé dans les grandes décisions qui sont prises. Vous plaidez pour qu'il revienne, pour qu'il travaille avec les technocrates dont vous parliez tout à l'heure?
Non, ce que je préconise, c'est que l'État prenne ses responsabilités. Que l'État décide de protéger le patrimoine naturel. Ça veut dire qu'il faut protéger aussi toutes les terres agricoles, ça veut dire qu'il faut protéger tous les paysages, et ce principe-là permet de le faire. Ça veut dire que l'État aussi, s'il veut créer un patrimoine construit, c'est la façon d'obliger à construire la ville sur la ville et avec la ville, de faire en sorte que les immeubles se parlent, de faire en sorte qu'il y ait une stratégie liée au mode de vie, liée au plaisir de vivre. Actuellement, dans cette dislocation ou dans cet étalement sans fin, plus personne ne parle à personne, donc c'est tout le monde est totalement isolé.
Alors on parle de la ville. Oui. Cette stratégie, vous en aviez parlé d'ailleurs dans la tribune qu'évoquait Nicolas Barré à l'instant. Inversement, au-delà de cette frontière, de ce chemin de ronde, pour reprendre votre expression, on construit plus rien à la campagne. C'est une stratégie pour la ville.
Stratégie pour la campagne aussi, surtout. C'est-à-dire que ce dont je parle, ça s'applique à chaque ville. Ça s'applique évidemment aux métropoles, où c'est le plus évident, mais ça s'applique aussi aux villes constituées. Ensuite, ça n'empêche pas chaque ville et chaque commune de se développer, mais avec la même philosophie. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de miter tout le territoire français. Donc, en termes de développement économique, il n'y a pas de problème. Je demanderais même qu'on fasse des plans d'urbanisme qui sont deux fois plus denses que ce dont on a besoin pour prouver que c'est possible. Mmh. Donc, c'est pas un arrêt de la croissance. C'est un arrêt du saccage, c'est tout.
Nicolas Barré.
À Marseille, vous venez de livrer une tour, la Marseillaise, en bordure de mer. Oui. À Paris, dans le 13e arrondissement, vous avez également un projet de deux tours.
Les tours du haut, il est une grande tour. Oui.
Comment fait-on pour que des tours comme ça, qui n'ont pas forcément toujours bonne presse, s'insèrent dans le paysage urbain ?
Écoutez, la décision de faire des tours est en général une décision urbaine. Là, il faut savoir que ce n'est pas les architectes qui décident de faire des tours les trois quarts du temps. Hein, ce sont des points de concentration de densité. Effectivement, sur les villes constituées, je dis qu'il faudrait faire ça comme l'acupuncture. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où ça peut se faire et d'autres endroits où ça ne se fait pas. Construire une tour, c'est dangereux parce que ça se voit de loin. C'est un symbole en général. Mais quand on a une association ou une sorte d'agglomérat de tours, la tour n'est plus une tour finalement. C'est-à-dire qu'elle perd son signe de verticalité. Mais pourtant, les verticales sont nécessaires dans le vocabulaire architectural, mais en général, pour être justement un signal, pour être un repère. Donc à chaque fois qu'on a une tour à faire, j'essaye en tous les cas de considérer que la tour doit entrer dans cette stratégie de contextualité. C'est-à-dire que ça doit être la tour de quelque part. Une tour doit être singularisée. La plupart des tours aujourd'hui sont les mêmes tout autour de la planète. On vit une période de clonage total. La plupart des immeubles de bureaux sont clonés, les immeubles commerciaux sont clonés, les immeubles d'habitation sont clonés, tout est cloné.
Bon, et par manque d'imagination de vos confrères.
Oui, puis maintenant il y a tellement de facilité avec les ordinateurs, on change trois paramètres, c'est fait, on a touché un horaire et puis c'est fini. Non, une tour, plus que le reste encore, a besoin de racines. Elle est à chaque fois là pour marquer un lieu. Et en même temps, une tour a d'autres avantages sur le plan sensible, c'est qu'elle permet de regarder très loin et ça permet. C'est un lieu qui peut être un belvédère, c'est un lieu. Bon, une tour peut faire du sens, mais pas toujours.
Comment on l'a fait accepter par les habitants autour ? Il y a une polémique en ce moment à Marseille autour de la cité radieuse de Le Corbusier. Les habitants autour disent attention, ne faites pas ça. Il y a notamment une pollution visuelle, ça va faire de l'ombre. Comment est-ce qu'on inclut aussi les habitants qui vont voir ces tours, y habiter parfois, dans ce dialogue ?
Je crois que les habitants ont leur mot à dire dans l'urbanisme, justement, et dans la façon de déterminer le projet urbain. Moi, ce que je propose, c'est que l'État prenant ses responsabilités, le principal risque, c'est de choisir la personne qui va être ce que j'appelle le metteur en ville, l'urbaniste, mais j'essaie de trouver un autre mot, qui va finalement donner une vision de la ville. Et cette vision de la ville devrait faire l'objet d'un véritable débat. Ce que je trouve scandaleux dans les lois actuelles et dans les lois européennes en particulier, c'est le fait qu'on est obligé de faire ça de façon anonyme. Alors que ce sont des débats qui devraient être totalement publics. Donc je crois qu'il faut absolument qu'on revienne à une dimension tout à fait démocratique de l'architecture. Je propose des ateliers d'élaboration du territoire, qui sont des lieux de rencontre, où on fait travailler ensemble les gens de la ville et les gens de l'État, où ce sont les élus qui les dirigent, ce sont des lieux de rencontre, ce sont des lieux ouverts aux habitants, ce sont des lieux ouverts à tous ceux qui s'intéressent à la ville, et ce sont des lieux de fabrication de lieux de mémoire, justement. Parce que pour qu'un lieu de mémoire existe, pour qu'il y ait un phénomène comme Notre-Dame de Paris, qui aurait pu exister à Paris avec les Halles, par exemple, qu'on a démoli, il faut qu'il y ait cette cristallisation, il faut qu'il y ait une relation directe entre la symbolique et l'appropriation. Il faut que ce soit une partie de la ville et de la vie, surtout.
Et il faut donc qu'effectivement les habitants puissent collaborer avec l'architecte, avec les élus.
Souvent les habitants ont raison. Hein.
Jean Nouvel, architecte français, l'invité exceptionnel de ce grand rendez-vous. On se retrouve dans un instant.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Jean Nouvel, l'architecte français et l'invité exceptionnel de ce grand rendez-vous en ce jour de scrutin. Jean Nouvel, dans les grandes villes, comme à Paris, mais c'est vrai dans de nombreuses villes, évidemment, en France comme à l'étranger, la place de la voiture individuelle, qu'elle soit électrique ou à essence, recule, diminue, parfois un peu de force. Comment est-ce que vous voyez la ville en 2030 en termes de mobilité? Est-ce que vous, architecte, quand vous pensez à un nouveau bâtiment, c'est devenu évidemment pour vous une contrainte et une exigence que de penser ces nouvelles mobilités?
Oui, la ville est un terme générique trop large dans ce cas-là. Les villes se demandent des modes de mobilité qui sont très très différents. Pour la métropole, je crois qu'il faut arriver à chaque fois à créer de nouvelles centralités. Et finalement, c'est un principe d'archipel. Et toujours créer une boucle, parce que la boucle permet de tourner autour de quelque chose, permet de relier les communes qui sont autour ou les habitants qui sont autour, et permet de gérer à l'intérieur de cette boucle des moyens de locomotion totalement propres.
C'est-à-dire, centralité, ça veut dire que dans un même lieu, on peut faire beaucoup de choses.
Oui, par rapport au Grand Paris, par exemple, puisqu'on devrait créer des centralités secondaires très fortes. Et on devrait faire en sorte, autour de ces centralités, de provoquer des modes de transport totalement propres qui permettent aux habitants de se promener sans voiture, en fait. Ça ne se fait pas actuellement, et on a bien tort. Quand on est évidemment dans des petites villes, c'est une autre histoire, mais même si on raisonne à partir du fait de stopper le développement urbain sur le plan spatial, on se retrouve dans le même système d'un développement de tous les transports à l'intérieur, donc on peut gérer de façon beaucoup plus simple. Et quand les villes sont trop petites, ben il faut bien qu'il y ait des véhicules, il faut qu'ils soient le plus propre et le plus performant possible par rapport au carbone, évidemment.
Romain Desarbres,
qu'est-ce que vous pensez des projets un peu radicaux de la ville de Paris, de piétoniser de plus en plus de zones? Il y a un projet notamment en ce moment de piétonisation qui irait de la Tour Eiffel au Trocadéro, pour ceux qui connaissent Paris. Est-ce qu'il faut chasser la voiture de grandes zones comme ça de la capitale?
Il faut arriver à gérer le transport, mais la façon de traiter ça par rapport à la végétalisation a, selon moi, des limites par rapport à ce qu'est le patrimoine, justement. C'est-à-dire que gérer Paris, c'est quand même un patrimoine totalement exceptionnel. C'est une ville hallucinante. Donc, je suis contre le développement systématique du gazon qui se développe dans toutes les surfaces et contre le fait de mettre des plantes à tous les étages. Et derrière, non, je crois que là, il y a quelque chose qui est une maladie un peu d'époque. Je crois que les problèmes écologiques sont d'une autre nature. Je crois qu'une ville comme Paris a besoin d'avoir de grands jardins. Une ville de Paris a besoin d'avoir une structuration liée justement au paysage. Et le paysage est une composante totale de l'architecture. Et que ce n'est pas un saupoudrage comme ça qui va gérer la chose. Ce que je crois aussi, par contre, c'est que la mutation des habitations, que ce soit des maisons individuelles ou des logements, s'accompagne et peut s'accompagner, surtout avec l'isolation thermique aujourd'hui, de terrasses. Je pense qu'on doit jouer, on peut jouer au niveau de l'habitat, selon les endroits et selon les fonctions, avec l'espace extérieur, et avec des jardins. Mmh. Ça, je crois que c'est possible.
Une question en lien avec l'actualité, avec ce qui s'est passé à Lyon vendredi. Une attaque, un attentat. Le premier réflexe dans ces cas-là, comme à chaque fois, le premier réflexe des enquêteurs, c'est d'aller regarder les vidéos. Les vidéos filmées par toutes les caméras qu'il y a en ville. La demande de sécurité est de plus en plus importante dans l'opinion publique. Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'il y ait de plus en plus de caméras qui filment nos villes, qui verbalisent à distance, voire qui nous reconnaissent, comme ce qui se passe en Chine avec la reconnaissance faciale? La Chine, qui est un pays que vous connaissez bien. Quel est votre regard?
Écoutez, moi, je ne suis pas pour un développement absolu. Maintenant, il faut bien voir que par rapport au développement de tous nos réseaux sociaux et de tout le système informatique aujourd'hui, on est quand même pas mal fiché sans ça. Mm-hmm. Donc je pense que la sécurité, quand le problème existe vraiment, peut justifier effectivement des caméras quand même. De plus en plus, ça dépend de la situation sociale. Je ne pense pas que ce soit un phénomène qui puisse être automatiquement permanent, mais je crois que quand la sécurité le demande...
Avec la reconnaissance faciale, dès qu'on met le nez dehors, on est reconnu.
Oui, mais selon les situations, une fois encore, selon les moments de crise, de terrorisme, etc., bon, je pense que là, effectivement, il faut en arriver là. Mais que ce soit un principe général, sûrement pas.
Nicolas Barré.
Est-ce qu'on utilise trop de béton aujourd'hui? On a parlé des tours, ça nécessite beaucoup de béton. Alors, quoi qu'il y ait aujourd'hui des projets de tours en bois à la place du béton, ça peut être une option. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce qu'une tour, ça peut vraiment être écolo?
Non, mais d'abord, je défends le béton, parce qu'on dit toujours du béton, mais que ce soit en métal, en bois, etc., c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que ce sont des bâtiments, ce sont des mètres carrés, donc c'est pas un problème lié. Cette formule est un peu péjorative, et c'est un matériau qui ne mérite pas ça. Mais bon, ça, c'est autre chose.
Mais c'est quand même beaucoup d'eau, c'est quand même beaucoup de sable, ce sont des matières naturelles dont on peut manquer de...
Mais le béton, justement, c'est un des matériaux les plus écologiques de ce côté-là, oui. Qui se fait avec du sable, quand même, pour l'essentiel. La question était...
Mais une tour très haute, par exemple, est-ce que ça peut vraiment être
écologique?
Est-ce que ça peut vraiment être une tour verte?
Non, le problème par rapport à l'écologie, c'est un problème lié à la densité, souvent. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on pense, la densité est nécessaire à ce moment. Et la tour est un outil pour densifier ponctuellement. Je dis bien ponctuellement. Donc on peut se servir de tours pour mieux utiliser les infrastructures qui existent. À ce moment-là, on crée moins de distance, justement, on crée moins d'équipements, on sauve de l'argent public par rapport à l'espace public. Donc ça fait du sens à certains moments, mais la tour, une fois encore, c'est un problème totalement contextuel. C'est-à-dire que souvent, bon, la ville de Paris est très très dense, il n'y a pas de tour. Donc on peut créer une densité par la continuité urbaine sur quelques niveaux uniquement. Et une tour, quand elles sont espacées, c'est une densité qui est plus faible que celle de Paris. Donc c'est plutôt des problèmes qui sont liés à des situations, c'est un problème de contextualité. Il y a des moments où les tours font du sens par rapport à leur signe et par rapport aussi à une concentration qui permet de mieux se servir des systèmes existants.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas rentré quand même dans une course au gigantisme? Il y a, je crois, 143 tours qui ont été livrées l'an dernier. C'est aussi une affirmation de puissance pour chaque État. Est-ce que vous le voyez comme ça?
Oui, enfin, il y a une course qui est celle de la course au landmark, je dirais, à l'événement architectural qui se ferait par l'échelle. C'est assez amusant de voir qu'aujourd'hui, les tours les plus hautes du monde se construisent dans le désert, pratiquement. Donc, c'est plus les mêmes questions. Ça permet aussi d'avoir, évidemment, autour de ces tours, quelque chose qui se constitue très vite et qui a une densité. Mais je ne pense pas que la tour soit un moyen de développement urbain.
Alors, mais ça... vous la défendez quand c'est un moyen généralisable.
Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé à Hong Kong, avec tous les logements qui ont été faits à la période anglaise. Bon, c'est une succession de tours absolument collées les unes aux autres. On ne sait plus où on est. Bon, c'est pas un système qui est généralisable.
Romain Desarmes.
Sur la Jeddah Tower, la tour de Jeddah en Arabie Saoudite, 1001 mètres, 1 kilomètre, une tour d'un kilomètre.
Oui, ils en préparent une d'un kilomètre aussi à Dubaï. Donc voyez, c'est...
Vous en préparez une d'un kilomètre à Dubaï?
Ah non, non, c'est pas moi. Non,
non, enfin, il y en a une en préparation. 1001 mètres, elle sera terminée d'ici 2021, dans deux ans. La course au gigantisme, on l'a dit, c'est un sacré instrument de puissance pour les États, ces tours gigantesques. Est-ce que c'est le Versailles contemporain? J'ai envie de faire le lien avec Louis XIV.
Je crois que
l'architecte est au service d'un pouvoir, oui, dans ces cas-là.
Non, mais je crois que les événements architecturaux ne se passent pas toujours par la taille. C'est vrai que la course à la hauteur...
Ça fait parler dans le monde.
Oui, la Tour Eiffel à l'époque a bien fait parler d'elle. Et on dit toujours que c'est la tour la plus haute du monde à tel endroit. Mais en fait, sur le plan culturel et sur le plan émotionnel, c'est pas comme ça que ça se passe. La plupart des bâtiments les plus remarquables ne sont pas les bâtiments les plus hauts de l'époque, souvent. Je parle pas pour Eiffel, qui était quand même quelque chose de tout à fait remarquable. Mais...
Dans ces cas-là, l'architecte sert le pouvoir d'un État?
Mais l'architecte, ça dépend ce qu'il fait, mais je veux dire, a priori...
L'architecte de cette tour, par exemple, d'un kilomètre de haut?
L'architecte de cette tour, des tours d'un kilomètre de haut, ou de 800 mètres de haut, ou de 700 mètres de haut, maintenant, je ne vois pas la différence. Les 1001 mètres sont assez symboliques, mais ça ne change pas le problème. Non, je pense que l'architecture marque les paysages. Donc la tour est un des systèmes les plus repérables, ça va de soi. Donc on peut s'interroger sur les tours, mais maintenant on peut s'interroger aussi sur la qualité de la tour, savoir si c'est de l'architecture ou de la construction, par exemple. Bon, savoir s'il y a quelque chose qui est émotionnel, ou si savoir si c'est uniquement le culte de la performance. Mais la performance, il y a eu des tours très très connues parce qu'elles étaient très hautes, et très peu connues parce qu'elles étaient admirées. Je pense à la Sears Tower à Chicago qui a détenu le record du monde de hauteur pendant 20 ans, personne ne sait ce que c'est.
Enfin, c'est de la construction et pas de l'architecture.
En dehors des architectes.
Bien sûr.
Invité du grand rendez-vous, Jean Nouvel, l'architecte français. On va parler de quelques-unes de vos grandes réalisations. On se retrouve dans un instant.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
L'architecte français Jean Nouvel est l'invité du grand rendez-vous. Énorme réalisation évidemment de Jean Nouvel. Je rappelle aux auditeurs, on en a cité quelques-unes tout à l'heure. Ça va de la Philharmonie de Paris à l'Institut du Monde Arabe, mais aussi la Rose des Sables à Doha. La Rose des Sables sur laquelle Romain Desarbres a une question pour vous.
Voilà, le musée national de Doha, inauguré le 27 mars dernier. Vous dites, Jean Nouvel, sur des programmes de musées de civilisation, on construit pour les peuples. Ceux qui vous passent les commandes, ce sont les pouvoirs en place. Est-ce que ça vous est arrivé d'être gêné par une commande à cause du régime qui vous l'a commandé? Et pour aller droit au but, est-ce que vous pourriez construire, par exemple, en Corée du Nord, dans des régimes dictatoriaux?
Et je pense qu'à chaque fois, c'est un problème éthique, mais que ce problème éthique, l'architecte l'a souvent, et pas uniquement dans des conditions comme celle-là. Je crois que c'est très difficile aussi, souvent, d'accepter les conditions de travail pour des logements sociaux en France, dans des normes qui sont idiotes et des endroits qui sont idiots. C'est au plan éthique, c'est aussi un énorme problème. Ces pays-là, il faut choisir ces pays et savoir ce que ça veut dire. Si ces pays-là vont dans le sens d'une ouverture, et si la culture est un moyen de dialogue culturel et d'ouverture au sens le plus large, sur le plan donc des idées, de la pénétration des idées, et les musées sont quand même très, très, très utiles pour ça. Je crois que là, il faut participer à ça. Ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, il faut bien voir qu'ils partent de très loin quand même. C'est-à-dire que le fondamentalisme, il a existé chez nous, mais il y a quelques siècles. Il est là-bas maintenant, ça n'a pas changé en quelques années. Mais il y a des tendances quand même. Donc, si la tendance est à l'ouverture à des idées qui sont extérieures, si la tendance est d'aller vers un autre statut de la femme, même si c'est plus lent, il faut participer à ça. On doit être acteur de cette mutation, et l'architecture peut être à ce moment-là un moyen d'accélération de cette mutation.
Et est-ce qu'il y a des régimes, des pays avec lesquels vous ne travailleriez pas aujourd'hui? Citez la Corée du Nord.
La Corée du Nord, c'est absolument probable. Oui, oui c'est absolument sûr.
Vous avez été choisi pour réfléchir à la revitalisation de la Casbah d'Alger, qui est en mauvais état, qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, ça avait soulevé une polémique, vous avez même traité de colonialiste, mais c'est le pouvoir de Bouteflika qui vous avait choisi, et compte tenu de ce qu'est devenu...
Non, c'est pas Bouteflika qui m'a choisi.
En tout cas, c'est la wilaya d'Alger, donc c'est quand même l'État algérien derrière. Donc, compte tenu de ce qu'est devenu ce pouvoir, est-ce que
c'est plus compliqué
aujourd'hui
que
vous prendriez vos distances par rapport à ça?
Non, le principe de choix n'était pas exactement celui-là, puisque c'est la... la région, c'est la région parisienne, c'est l'Île-de-France qui a proposé, comme elle l'a fait pour d'autres choses, la ville de Paris l'avait fait avant, une collaboration culturelle sur un sujet donné. Donc j'ai été choisi en fait ou proposé par les Français. Donc c'est bon. Ensuite, je ne vais pas faire part de mon passé idéologique, mais je ne crois pas que je sois de ce côté-là. Non, mais ça, c'était surtout une cabale d'ordre professionnel était totalement corporatiste. Ça n'a rien à voir. Il y avait une pétition qui avait été prévue de 500 personnes qui attendaient que mon nom sorte, c'est tout. Donc. Mais bon, c'est pas le sujet qui est intéressant. Mais aujourd'hui, vu la situation politique, on attend, de toute façon. Donc on ne sait pas ce qui se fera. Mais de toute façon, c'est un problème à la fois architectural et c'est un problème urbain aussi. C'est un problème à l'échelle d'Alger qui est fondamental. Donc, je travaille avec beaucoup de monde, avec beaucoup d'Algériens aussi. Hein, c'est pas un acte d'impérialisme culturel, je crois pas.
Vous avez été, Jean Nouvel, un des architectes des présidents français. Vous avez fait l'Institut du monde arabe, c'était un chantier de François Mitterrand. Oui. Vous avez fait le musée du Quai Branly, c'était un chantier de Jacques Chirac. Parfois, il y a des bâtiments qui vieillissent mal. L'Institut du monde arabe, on sait que les coûts de fonctionnement aujourd'hui sont de plus en plus lourds. Est-ce que, avec les années qui vous séparent de cette construction, vous dites qu'il y a peut-être des matériaux, des façons de faire que vous regrettez. Comment on regarde ce qu'on a fait 10 ans, 20 ans, 30 ans auparavant?
Mais 20 ans ou 30 ans après, on sait où on en est. Donc sur l'Institut du monde arabe, je sais où j'en suis à peu près. Non, c'est un bâtiment qui a très bien vieilli. C'est un bâtiment qui n'a pas été entretenu du tout. C'est un bâtiment qui n'avait pas de budget d'entretien pendant 30 ans. On a attendu 30 ans pour refaire les petits moteurs
des mouches à rabier.
Les mouches à rabier. Pourquoi? Parce qu'en ces mouches à rabier, on s'en est servi tout le temps comme d'un gadget. Donc ils ont tourné en fait pendant 5 siècles. Donc c'était normal à un moment qu'on bouge ça. Mais le bâtiment lui-même, il n'a pas bougé. Donc on cherche à chaque fois, évidemment, dans des bâtiments comme ça, la durabilité. Durable, ça ne veut pas uniquement dire écologique au sens où on l'entend aujourd'hui. La première qualité de la durabilité, c'est de durer et de ne pas faire des bâtiments qui sont à jeter. Bon, et au plan écologique, en tous les cas, ce qui est essentiel, c'est de prendre en compte le coût global. Le coût global, c'est-à-dire c'est pas le coût de construction, c'est le coût de construction plus le coût de maintenance sur un temps long. Alors ça, c'est jamais pris en compte en France. Et dès qu'on veut investir plus pour économiser sur la maintenance, on n'est jamais écouté.
On vous dit, bon, vous dépassez les coûts et ça ne marche plus.
Voilà, partout, et même pour les bâtiments officiels. Je ne donnerai pas de nom, mais même pour les bâtiments officiels. Bon, donc, la première chose qu'on enlève, c'est la réserve d'eau, l'eau de pluie, etc. Bon, on enlève tout ça. Bon, donc, aujourd'hui, ce problème de l'économie, il doit se régler de façon globale. Il ne peut pas se régler à la petite semaine, en contraignant sur les coûts de construction. Le bon marché coûte cher, c'était une formule de Robert Lyon, je crois, à l'époque. C'est une formule toujours d'actualité.
Autre réalisation, la Philharmonie de Paris, vous aviez une histoire compliquée. On ne va pas y revenir en détail. Les histoires architecturales aussi, parfois, tournent mal. Est-ce qu'on avait une
question? Non, la Philharmonie de Paris, c'est simplement l'histoire d'un architecte qui a été évincé par rapport à la loi MOP, qui l'obligeait à contrôler le chantier au plan économique. On n'a pas voulu de moi par rapport à ça. C'est simple, une simple phrase.
Vous aviez dit que ça avait été l'un des plus grands traumatismes.
Mais oui, parce qu'ils se sont mis en position de contrefaçon. Ils ont fait des réunions avec les entreprises sans moi, en les cachant, en niant ça vis-à-vis de la justice. C'est un véritable scandale.
Et ça a l'air compliqué finalement de travailler en France aussi.
Oui, enfin, j'étais très surpris qu'en France, on se permette ça par rapport à un chantier comme ça et par rapport à un architecte.
D'ailleurs, c'est plus compliqué de travailler en France ou à l'étranger, avec les élus, avec l'administration. Est-ce que vous avez plus d'agilité à l'étranger ou ça se passe bien ici?
Je dirais que, peut-être paradoxalement ou pas, il y a plus de respect à l'étranger qu'en France. C'est le prestige de l'étranger, sûrement.
Il y a 10 jours, disparaissait le grand architecte Pei, à qui on doit la pyramide du Louvre. Hein. Quel regard portez-vous sur son œuvre?
Écoutez, j'ai bien connu Ariam Pei, parce que je travaillais sur le jardin des Tuileries à l'époque, et lui travaillait sur le Louvre. Donc j'allais le voir à New York. Mais au moment où M. Biasini est arrivé, il a dit qu'il ne s'intéressait plus au jardin, donc je suis parti. Mais lui, en tous les cas, je trouve que son travail est un travail de maîtrise. C'est un travail toujours de mise en évidence d'une modernité, mais qui est revisité par rapport à des notions de contextualité et de prestige, souvent parce qu'il a beaucoup travaillé sur des bâtiments culturels en particulier. Donc c'est quelqu'un qui laisse une œuvre solide.
Extrêmement audacieux, cette pyramide, à l'époque.
Mais la pyramide, je trouve que c'est une idée qui est forte, pour la bonne raison que c'est l'entrée principale du Louvre, du Louvre-musée. Donc la question qui se posait à l'époque, c'était savoir si le Louvre allait devenir un quartier de musées, avec différents musées qui chacun avait des entrées séparées, ou s'il avait une seule entrée. Donc pour marquer une entrée au milieu de cet espace, il a réussi son coup de façon formidable.
Quelle est l'importance, Jean Nouvel, que vous accordez à la transmission entre ce que vos prédécesseurs ont laissé et ce que vous voulez contribuer à apporter pour les générations qui viennent?
La transmission, c'est l'architecture elle-même. C'est-à-dire que j'essaie de défendre un certain nombre d'idées qui tournent autour de la contextualité. Je pense qu'un bâtiment qui ne sait pas où il est un bâtiment qui ne devrait pas exister. Donc je me suis battu contre le clonage. Le livre et Baudrillard sur les objets singuliers parle de ça essentiellement. Donc je crois qu'on doit laisser une attitude, une façon de construire. Je crois que l'architecture, ça se fait avec des idées. Et ce sont ces idées-là qu'il ne faut pas oublier. Actuellement, le droit d'architecturer est mis en cause. On ne peut plus architecturer dans les 9 dixièmes de cas. Tout simplement parce que c'est les règlements urbains actuellement nous mettent dans les situations. Un architecte, qu'est-ce qu'il fait en général? Il hérite d'un petit parallépipède qui est situé à un endroit dont il ne peut pas changer les dimensions ni la place. Il a un petit budget pour faire les façades et le budget est très réduit. C'est pas ça être architecte. Architecte, c'est pouvoir exprimer le plaisir de vivre quelque part. Je crois que c'est un très mauvais point de départ.
Merci beaucoup, Jean Nouvel, d'avoir passé avec nous cette heure et de nous avoir donné cette leçon d'architecture. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, mêmes interlocuteurs, pour évidemment revenir à une personnalité politique plus traditionnelle. Excellente journée à tous. Très bonne semaine.